Voilà, c'est là que nous avons trouvé notre problème. Ramenez-moi en scène, interroge ton père et il te dira. Et si tu n'as pas de tradition familiale à interroger, eh bien, tu ne sais pas d'où vient l'autorité d'Israël dans le temps. Non pas l'autorité de la loi écrite, que n'importe quelle société, dont n'importe quelle société peut s'en emparer pour en faire sa religion, sa culture, mais l'autorité de la spécificité de la Torah Shebaal-Peh en Israël. Klomar, c'est pour dire, Mouachar, Asherim Chil Lanou, Tevar Shel Torah, le cerveau du Père qui nous a fait hériter de la nature de la Torah, ou Mekor Ozam Shel Divrei Sofrim. C'est cela la source de la force des paroles, l'autorité. Mais vous voyez, Ozam, c'est pas par hasard qu'ici le Ravoutner emploie le mot de Haz, parce qu'il va tenir une place importante, Haz, fort, dans l'enseignement du Maharal que nous aurons demain, après-demain, avec Michel, je vous le signale déjà, vous vous rappellerez de ce Ozam chez le Divrei Sofrim, cette force qui nous permet de donner la Torah en chaque temps, la Torah que Dieu a voulu révéler au peuple d'Israël, nous vient des pères, beaucoup plus que de l'étude intellectuelle et théorique dans la maison d'études avec les maîtres. Et toutes ces paroles, se trouvent incluses dans une seule formule chez Chachmei Emet, des sages de vérité, qui est Mounat Chachamim, que la foi dans les Chachamim est Tikkun le Chochmat Yavanit. C'est ça, le Tikkun, le Mazetikun ici, le contrepoids à la sagesse grecque. C'est-à-dire, seul celui qui a Emunat Chachamim peut lutter contre la sagesse grecque. Celui qui n'a pas Emunat Chachamim, que les paroles des sages sont, c'est vraiment paroles de Dieu sur terre après Moïse, parce que ces sages-là sont les fils des pères à qui Dieu a envoyé Moïse. Celui qui n'a pas cette Emunat tombe dans le piège de la Chochma Yavanit, c'est-à-dire transforme la Torah de Moïse elle-même en une des cultures de l'humanisme grec, ce que les Grecs avaient voulu faire à partir du moment où ils ont traduit la Bible en grec. On a parlé de cela un peu hier soir. Vous voyez donc, ici, on sent que le Ravoutner est heureux, il est content d'avoir trouvé la source de cette autre parole, « Emunat Chachamim », c'est le tikkun de Chochma Yavanit. En le reliant à notre sujet. Le Zachinu est pour. Vous voyez, le Zachinu. Et nous avons donc mérité l'imtsom akor meforash, de trouver une source explicite, la zé, à cela, de ce qui vient d'être cité, que la emunat hachamim, c'est le tikkun de Chochma Yavanit, bishmachtin, dans l'étude talmudique, chez Kavo Inyan Divrei Sofrim, qui a fixé ce problème de l'autorité de la Torah Shebaal Peh, de Kesherim ne Hanouka, d'Afka, en relation avec la lumière de Hanouka, chez où Moed Geulat Yavan, qui est la commémoration de l'événement où nous avons été délivrés des Grecs, Védoc. Donc, vous connaissez ce mot-là, Doc ? J'explique pour les autres. Ben voilà, on nous a pris encore le coup des Grecs.
C'est à droite de votre...
Ah, jamais, Doc. Oui. Voilà, Doc, c'est dans l'hébreu rabbinique, ça peut être rattaché par certains grammairiens à les daïecs. Lis ça avec précision, les daïecs, doc. Okay. Mais en réalité, on le prend souvent pour un anagramme, notaricone de roche, ve, tinsa, kal. C'est-à-dire, étudie et tu verras que c'est simple. Roche, ve, tinsa, kal. C'est clair? Roche, ve, tinsa, kal. Ça, c'est une tradition commune à toutes les écoles, Ashkenaz et Sfarad. C'est les Sfaradim, il y a une autre lecture encore qui est Broche, Broche ve Kabel Schar. Ve Kabel Schar. Donc, ça veut dire étudie, broche, recherche, creuse, et tu recevras le salaire par toi-même. C'est-à-dire, c'est pas moi qui t'ai appris, tu as compris. Mais si, et j'ai eu une fois le privilège et l'honneur de citer cette lecture devant M. Vaïda. Vous connaissez M. Vaïda?
Oui.
Alors il m'a fait le plaisir de sourire. Quand Vaïda sourit, c'est rare. Bien. Et voilà donc que nous avons, si vous voulez, achever la lecture du texte. Alors vraiment, on doit dire ce qu'il y a à nous. Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. Bien sûr, pour ceux qui n'étaient pas là hier, ça a pu être un peu heurté. Mais enfin, il nous reste un petit moment quand même, si vous voulez, s'il y a des choses qui sont restées en clair. Vous me permettrez quand même de résumer en quelques phrases. Il y a là une catégorie importante qui a été élucidée par le Rav Ouzner dans l'enseignement du Maharaj, dans beaucoup de points des Midrashim que nous toucherons demain avec le Maharaj, nous retrouverons cette catégorie, et c'est la différence de relation entre le Talmud et le Rav. Là, nous sommes reliés à mon cher Rabbeinu, et entre le Ben et le Hav. Et l'essentiel de ce conflit de Hanouka est relié à ce problème. Qu'est-ce que les Grecs ont voulu annuler, couper? C'est le lien historique de la mémoire nationale. Et c'est pourquoi, c'est un autre sujet, mais je le relis rapidement, c'est pourquoi tout ce qui concerne Hanouka est resté oral. Nous n'avons pas de mythe par écrit dans quelque livre que ce soit de l'histoire de Hanouka. Ça, c'est le grand chidouche des Maccabées. S'ils avaient mis par écrit, si la tradition avait mis par écrit l'histoire de Hanouka, c'était le signe que les Grecs avaient vaincu. Ils nous avaient transformés en lecteurs de livres. Or, leur problème était de nous transformer en lecteurs de livres. Vous voyez ici, il y a un chidouche profond de la tradition, puisque c'est ainsi, c'est ça qu'ils voulaient faire. Nous couper de notre mémoire, et bien nous allons relever le défi. Rien de Hanouka ne serait écrit. Et c'est extraordinaire à quel point Hanouka, c'est vraiment la fête des enfants, des fils, des pères, beaucoup plus que des... Je ne sais pas, rentrer dans une yeshiva ou dans un milieu où c'est surtout la relation de Rav à Talmud, de Talmud à Rav qui est mise en évidence. Hanouka, ça fait un petit peu trop Yiddishkeit. Vous voyez ce que je veux dire, bien. Hanouka, ça fait un petit peu là mouvement de jeunesse. Qu'est-ce que ça vient faire cette fête de Hanouka dans une yeshiva? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est extraordinaire de voir à quel point les Bnei Israël ont compris que Hanouka, c'est à eux. C'est en tant que la filiation des pères et des fils continue, c'est ça Hanouka. Et donc les Hachamim ont tout de suite mis l'accent sur l'essentiel. Il faudra que ça reste oral. C'est ça notre test. C'est ça qui prouvera que nous sommes les amants du Seigneur. Ça s'appelle test amant. Qu'est-ce que tu dis? Hadassi Gershusen.
Dans la mesure où Yavan vient avec Israël pour une unité nationale, je pense que c'est déjà en Israël une sorte de flamme,
c'est-à-dire de. Alors, retraduis ton c'est-à-dire, tu vas dire les mots.
Il existait un manque,
oui,
alors.
Une faiblesse.
Que Yavan vient révéler. Et
disons une tendance à l'assimilation.
C'est pour qu'il passe jusqu'à l'expulsion du deuxième temple, qui est due, selon la France, à la finale primaire, c'est-à-dire à oublier qu'on a une relation avec le même père. C'est-à-dire que la communauté juive.
Jusqu'à là, c'est très bien. Mais là, l'exemple de Sinatrinam pourrait être lié, mais il faut élaborer beaucoup plus. Là, ce que tu dis, c'est déjà un drame.
Non,
c'est un court-circuit moussarisant que tu es en train de faire. Okay, tu le sens bien. Mais à un certain moment, tu as quitté le sujet en sautant sur une conséquence, pas de détails, c'est important, mais de détails, d'imprégnance, sur le principe. Et ça, nous allons étudier demain, après-demain, avec les textes que nous allons voir, bien sûr. Dès la sortie d'Égypte, dès la constitution d'Israël en nation des fils des pères, ce gamme est apparu. Mais le problème n'est pas ici, dans Ben Adam la Havero d'abord, mais dans Ben Adam la Makom, Eloke Israël. Ça, nous l'étudierons demain avec la Côte du Vaudor. Je vais vous donner la parole, mais une minute. Ce qu'il faut dire, c'est que ce gamme qui s'est dévoilé là au temps des Grecs, c'est exactement ce que nous connaissons encore jusqu'à aujourd'hui, la tendance à l'assimilation. Et voilà pourquoi je t'ai tout de suite arrêté, d'abord parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour élaborer ton chidouche là, mais c'est parce que il faut bien savoir que, à travers tous ces temps-là, souvent, on a trouvé à Ahavat Chinam, parfois plus chez les Juifs qui avaient tendance à l'assimilation que chez les autres qui restaient fidèles. Je ne sais pas si j'ai été clair. Okay? Et c'était vrai déjà au temps du Baït Sheni. Les sectes intérieures, schismes, ces espèces d'irritation des proches entre eux, on les a trouvés beaucoup plus chez les Juifs du ghetto, dans le ghetto, que chez les Juifs assimilés à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai un peu comme tout ça. Oui. Simplement, vous
très
attends, nous avions pas. Non, peut-être pas fini. Oui. Oui, oui, je voulais dire, pour les cours que nous aurons demain, après-demain, vendredi et dimanche, Michel a préparé toute une série de textes, et en hébreu et en français, en anglais d'ailleurs, parce qu'on n'a pas trouvé de traduction en français, pour que vous puissiez préparer les sujets, comme ça on ira un peu plus vite. Est-ce qu'il y a donc, tu vois ton problème ?
Deux textes ne seront pas étudiés demain. Je vous demande de lire une traduction française de 7 versets de Daniel. En français, n'importe qui peut le lire. C'est la base de tout le livre du Maharal qui a été donné à Jaramsa. Et donc, je considérais que tout le monde a lu en français les 7 versets. Le deuxième, la traduction en anglais, n'est pas la traduction française du Midrash, la traduction anglaise du Midrash, qui a été cité par la rabbin de Pierre hier, expliqué par Rabbi Kenadi, qui va être repris. Alors le Maharal, ils n'auront pas le temps de voir en détail. Le troisième, enfin, c'est qu'ils sont deux versets d'Isaïe, des photocopiés, des traductions françaises mot à mot, et ces trois versets seront l'objet de toutes les suites d'après-demain. Donc je vous demande déjà de les lire, vous en imprimer, nous verrons après-demain comment le salut des commandes Maharal a expliqué cela. Alors c'est pour une disposition en grande partie de l'évolution.
Bien, écoutez, étant donné que nous devons donner la salle aux étudiants de Yavne, mais je crois qu'ils ont grève des lycées, non ? Il y a grève aussi à Yavne ? Je sais pas. Alors, si vous voulez, nous allons rester encore pas plus de un quart d'heure, parce que sinon, on va nous assassiner. Alors, donc, dans le sujet, hein. Attendez, vous avez déjà parlé, toi ? Une minute. Qui contemplait les étoiles, oui. Voilà. Création art. Oui, je ne comprends pas très bien le lien avec les étoiles en particulier, mais l'idée est très exacte. Et je vais revenir un peu, grâce à cette question, sur ce que nous avons entendu hier soir. Mais d'abord, à mon sens, je crois que le contresens de Juvénal, je ne sais pas si Juvénal ou Tacite, ou Théophraste, c'était Théophraste, c'est qu'au moment du Kriyat Shema, on regardait le ciel pour savoir s'il y avait 3 étoiles. Alors ils croyaient qu'on contemplait les étoiles. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est probable que ça vienne de là. Mais voilà ce que nous disait le professeur Mélez hier soir. Il nous dit que, à son sens, les Grecs n'avaient pas l'intention d'imposer tous les édits de persécution culturelle et religieuse qu'ils ont institués en Judée, que ça a été provoqué par les Juifs hellénisants eux-mêmes. C'est ce qu'il avait dit, en citant Jason et Ménélas. Mais j'ai bien senti un peu sa position qui consistait à dire, après tout, si les Grecs entendaient les Européens d'aujourd'hui, pourquoi pas les Français qui nous sommes en France, deviennent antisémites, c'est la faute des Juifs. En tant que les Juifs veulent participer à la cité, mais pas complètement, et réclament leur spécificité nationale, religieuse. Alors là, la question qu'on lui a posée 2 fois, 3 fois, mademoiselle l'a posé aussi, il n'a pas répondu, et je comprends pourquoi. C'était, et les autres, qui ont aussi une autre religion. Eh bien, chez les autres, ça peut aller, parce que ce n'est qu'une religion. Tandis que chez les Juifs, cette religion, c'était le bastion national lui-même. Et c'est la raison pour laquelle les Grecs, l'ayant diagnostiqué, ont compris que pour transformer la religion des Juifs simplement en religion, il fallait d'abord couper le lien avec les pères, c'est-à-dire le lien national. Et ils ont failli réussir. Et chaque fois qu'ils ont réussi, la communauté qui en est résultée, dans ce cas historique, les Sadducéens, a fini par disparaître. Là, nous pourrons avoir une mise au point historique. Est-ce qu'elle a disparu par extinction naturelle? Ou est-ce qu'elle a disparu par destruction physique? Je pense qu'il y a peut-être dans un cas comme ça, dans un cas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est bien évident que cette, là, il l'a bien identifié, que cette tendance hellénisante est une tendance connaturelle à l'être juif mis en relation avec la cité extérieure, ça rejoint un peu ta question, et que c'est précisément le cas grec qui l'a révélé la première fois. Mais qu'au fond, cette histoire n'est pas finie, et que c'est aussi une raison pour laquelle elle n'est pas mise par écrit. Parce que nous sommes encore occupés au même combat, et donc elle ne peut pas encore être mise par écrit. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, j'en ai profité pour... Attends, là tu as encore rajouté une autre question. Referme la parenthèse parce que j'ai pas le temps d'y répondre. Mais... Voilà, c'est cela. C'est lorsqu'une culture est une culture coupée de sa propre mémoire, elle ne peut pas accueillir une culture qui n'est pas coupée de sa propre mémoire. C'est cela. Si j'interprète un peu ton intervention, c'est que ce que les Grecs reprochaient aux Hébreux, c'était bien sûr d'être restés fidèles à leur père, mais c'était, ils leur reprochaient qu'eux, les Grecs, n'avaient pas de père. C'est à peu près ça que tu veux dire. Alors là, je comprends mieux. C'est ça. Le conflit, c'est Édipe et Akhenaton. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Bon, très bien. Oui.
Si j'ai bien compris, on est juif par l'appartenance nationale.
C'est ce que dit la halakha. C'est ce que dit la halakha. C'est pourquoi un juif qui s'identifie par l'appartenance nationale, même s'il ne pratique pas la loi de Moïse, est juif selon la loi de Moïse. Ce qui peut paraître éminemment paradoxal. Bon, en général, il a tendance à se dire « et je suis un bon juif », ça c'est à voir, mais en tout cas, juif, c'est ça qui est difficile à entendre, et par l'égoïsme, et par les juifs assimilés, d'ailleurs. Bien, est-ce qu'il y a une autre question? Il y en avait une par là, oui. Non, 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 bien sûr, non, non. Non, c'est pas quelque chose de biologique, dans la mesure où la personne humaine ne se ramène pas à quelque chose de biologique. Oui. Il n'y a de biologique dans cette histoire que la biologie humaine, en tant que les juifs sont des hommes. Okay? Et nous avons un cerveau d'homme. Mais ce cerveau d'homme a une histoire. Il a une histoire d'imprégnation culturelle, d'imprégnation manière d'être homme, qui a pu laisser des traces biologiques. Je ne suis pas neurologiste, eh ben, c'est possible, mais c'est absolument secondaire. La preuve, c'est qu'un guerre devient un juif dès qu'il a dit « Je rentre dans l'histoire d'Israël, j'ai compris ce que c'est une sale affaire, mais je rentre dedans. Okay » Je vais vous raconter une histoire de guerre qui est très connue, c'est le Netinat HaGer de Onkelos. Vous savez que Onkelos était un Roumain converti au judaïsme. Il devait s'appeler Achilaïus. Et il s'appelait Achilaïus, d'ailleurs. Il était le neveu d'un empereur romain, dont je pense que c'est Néron lui-même. Si c'est pas Néron, c'est un autre, mais enfin, ça doit être. Et il a écrit un targoum de la Torah qui est considéré comme kadosh, le targoum onkelos. Et il y a un grand commentaire qui s'appelle Netina la guerre, en hommage à onkelos comme guerre. Un grand commentaire de son targoum. C'est une étude de la Torah pour elle-même, l'étude des targoumines. Et alors... Le Midrash raconte l'histoire suivante. Les empereurs romains avaient l'habitude d'envoyer leur héritier présomptif se renseigner sur les affaires de l'Empire comme légat. Il est arrivé, lui, comme légat en Judée. Et alors, ça l'a tellement impressionné, la manière d'être homme des Judéens, qu'il est rentré dans l'identité juive et il est devenu guerre. Son oncle, l'empereur, furieux, l'a convoqué et lui pose cette question, comment peut-on, alors qu'on est l'héritier du trône de Rome, comment peut-on devenir juif? Il répond, écoute, voilà le conseil que tu m'as donné en partant, quand tu m'as envoyé. Effectivement, les empereurs avaient l'habitude de donner un conseil politique à leur héritier présomptif, avant ce grand voyage dans les affaires de l'Empire. Et lui, il lui avait donné comme conseil le conseil suivant. Si tu vois une affaire qui marche bien, t'en occupe pas, parce qu'elle ne peut que péricliter. Qu'est-ce qui vient après quand ça va bien? Ça va mal. Mais si tu vois une affaire qui marche pas, occupe-t'en, elle ne peut que réussir. Il dit, j'ai trouvé la plus sale affaire qu'il y a au monde, alors j'ai accepté ton conseil. Bien, ironie, humour mis à part, vous comprenez ce qu'il y a là-dedans. Il a perçu que l'authenticité humaine passait par là, et c'est pour ça que c'est difficile. Alors il s'est dit, je vais avec eux. Je me rappelle une chose, un souvenir de guerre. On a fait une fois prisonnier un groupe d'Allemands, qui était une secte chrétienne judaïsante. Et alors, bon, on les a quand même prisonniers comme s'ils n'étaient pas judaïsants, c'était des Allemands. Et puis, imaginez à l'époque de la guerre sur le front, qu'est-ce que ça pouvait être quand on avait un prisonnier allemand. Bon, je referme la parenthèse. Et alors, un d'entre eux nous a expliqué cette chose-là, c'était très joli. On leur a dit, mais pourquoi vous vous occupez du judaïsme dans l'armée allemande, hein, au temps de la guerre des nazis. Il dit, voilà, nous sommes tous les hommes perdus dans la forêt. Et puis, on a finalement entendu qu'il y avait un groupe dans la forêt qui avait une boussole. Alors, on ne sait pas où ça mène, mais on sait qu'il y a un groupe qui a une boussole. Alors, on se met avec ceux qui ont la boussole. Les autres ont perdu la boussole. Et ils ont entendu cela, le salut vient des Juifs. Il y a un groupe qui a une boussole pour sortir de la forêt. Alors, on va avec eux. C'est ce qui est arrivé à Michelos, profondément. Vous comprenez le... oui, y a-t-il une autre question? Plus fort.
C'est question de faire un voyage très loin, mais je vais l'admettre. C'est par rapport à les
gens qui... Oui, vous reprenez la question de monsieur à laquelle je n'ai pas répondu, vous avez entendu. Alors, quelle est la vôtre? La même.
Je ne sais pas, donc, si l'archidouche avant tout est celui qui est relié à l'Empire romain, donc est-ce qu'on peut lire à travers une sorte de exigence par rapport aux ceux qui font les Hiroshim et à la fois s'occuper bon, de l'exégèse pour Moshe Rabbeinu, mais en même temps une certaine conscience et responsabilité par rapport à la société nationale historique?
Ce qu'ils reçoivent de ce que j'appellerais un vrai maître. Parce qu'un vrai maître est celui qui est père, fils de son père, et pas seulement qui a appris dans les livres. C'est ça. Vous comprenez? Comme je pense que la chose est claire. Qu'est-ce qu'on appelle un chidouche authentique? C'est ce que Talmid Mouvhak, Kibel Merabo, Ish Mipi Ish, Ad Moshe Ravenu Mipi Agoura. C'est-à-dire, c'est ce qu'un élève assidu, Mouvak, c'est plus qu'assidu, a reçu de son maître, de bouche à bouche, jusqu'à Moïse, notre maître, de la révélation au Sinaï. Ça veut dire que lorsqu'on est relié à une Torah qui concerne une histoire, et non pas à une Torah qui s'érige en confession religieuse, branchée, greffée sur une autre histoire, sur l'histoire d'un autre. Et je n'ai pas répondu vraiment à la question, sinon en essayant d'expliquer un peu plus le critère du Ravoukner que vous avez repris, je crois qu'il y a là quelque chose d'important à élucider pour lui-même. Mais alors, ceci dit, nous avons, bien entendu, je ne sais pas comment vous dire ça, peut-être vous étonner, quand on est vraiment habitué à la Torah Shebe'al Peh, il nous suffit de jeter un regard sur un chidouche qu'on nous apporte pour savoir si c'est cachère ou pas. Tout simplement parce que les mots ont le sens qu'ils ont. La Torah, c'est une science extrêmement exacte. Si quoi que ce soit qui est dit ne marche pas, est en porte-à-faux avec quoi que ce soit qui est transmis par nos maîtres d'autre part, d'origine mosaïque, greffée sur une culture radicalement
je voudrais dire en yiddish, culture radicalement étrangère. Est-ce que c'est bien clair?
Est-ce que c'est... Est-ce que...
Attendez, vous avez déjà parlé, vous, Ken? Citez, citez, citez le Rashi.
Rashi dit pourquoi la Torah a commencé par le Rashid alors que vous commencez par Adam et Chazé.
Oui.
Il attend un verset de.
Quel?
Quel?
Alors, comment vous reliez votre question?
Il y a un lien entre une position pour avoir la mémoire et la relation en terre.
Très bien.
Puis après,
c'est juste. Oui. Oui, oui. Ben, Rachid confirme tout ce que nous avons. Rachid que vous citez là confirme tout ce que nous avons étudié.
Et pourquoi ne sont pas les élèves et les enfants de la même personne? Pourquoi la même personne?
Parce que voilà. Si le premier homme, Adam Arishon, avait été Abraham, si le premier homme avait été hébreu, alors ça aurait été le cas. La Torah aurait été donnée dès le commencement de l'histoire du monde. Le premier père aurait été le premier maître. Mais Abraham fait surgir du dedans d'une humanité qui était devenue ce qu'elle était, une collectivité qui, elle, comme collectivité, va recevoir par l'intermédiaire de Moïse, en tant que collectivité, la Torah du Créateur. Et parce que ça ne concerne pas une aventure individuelle. Ce n'est pas la Torah d'Abraham que nous avons. C'est la Torah du Dieu d'Abraham. Mais c'est la Torah de Moïse parce qu'elle concerne la collectivité des enfants d'Israël. Vous comprenez que ce que je veux expliquer, c'est que chaque fils d'Abraham est un individu. Et il a l'équation personnelle à l'intérieur du clan Israël. Et ce serait une religion mythique de l'expérience individuelle de chacun et son équation personnelle de sa relation au Dieu de tous. Seul Moïse s'adresse à la collectivité. Abraham parle à son fils. Okay? Moïse parle à tous les fils à la fois. Et alors, il y aurait là une aventure subjective, c'est le mot que je cherchais. Si c'était Abraham qui institue la Torah, nous aurions, c'est peut-être un peu comme ça dans l'islam, d'une certaine manière, nous aurions la religion du mythe du Dieu d'Abraham. Nous avons en réalité la religion de la réalité historique pour une collectivité au temps de Moïse. Moïse s'adresse aux Bnei Israël tous ensemble. Et aucun des fils en particulier ne peut s'ériger à la place de l'identité collective. C'est ça le phénomène de secte auquel j'ai fait allusion tout à l'heure par un autre biais. Lorsque un Rav se présente comme le Av par excellence, il y a un phénomène de secte qui a tendance à rejeter à l'extérieur de la secte tous les autres fils qui ne sont pas de la même secte. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et par un autre biais, je retrouve votre même question. Il faut que... regardez, le verset est clair. Torah, Tziva, Lanou, Moshe, Moracha, Kehilat, Yaakov. Il faut qu'il y ait l'assemblée, la collectivité, le clav, pour que la Torah soit authentique. Moïse seul équivaut à tout Israël. Abraham est le père de son fils. Okay? Isaac est le père de son fils. Jacob est le père de ses fils. Moïse est le maître de tout Israël. Il y a un midrash dans la Gemara qui dit que Jacob aurait pu être celui à travers qui la Torah aurait été donnée. Sa génération n'a pas mérité. Je prends au niveau d'Israël même, ses 12 enfants. Ils n'ont pas encore mérité de faire Kehila, alors la Torah n'a pas été là. Il y avait division entre eux. Là, je rejoins un peu ce que nous avons étudié dans Gemorot HaShem. Okay? Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est que Moïse qui a cette capacité de faire la collectivité d'Israël en tant qu'être clal, alors la Torah peut être donnée. Vayakhel Moshe. Moshe fait la Kehila. Alors il peut donner la Torah. J'insiste beaucoup sur le fait que nous sommes complètement au-delà de l'expérience subjective, individuelle, authentique pour chacun, mais s'érigeant à la place du clal qui devient un phénomène de secte et qui se passe. Okay. Elle existe dans la vie intérieure, on ne met pas ça en public.
Oui, non, c'est sûr. Mais enfin, est-ce qu'elle a le droit
d'être... Je vais vous dire, pour la halakha, beaucoup de choses de l'expérience individuelle intérieure sont pas cachères quand elles sont en public, mais si elles restent intérieures, autorisées. Si ça reste subjectif, c'est moi comme ça, moi dedans moi, mais on ne met pas ça en public. C'est pour ça que vous n'avez aucun écrit mystique qui met ces tripes religieuses en dehors, qu'elle, si j'ose dire, en public. Ça ne se fait pas, c'est pas juif. Enfin, il n'y a que ce qui concerne la collectivité qui est cachée. Et je dis bien, il peut y avoir, c'est toute la problématique de dialectique intérieure au Talmud, des hypothèses intérieures toutes cachées, mais elles sont subjectives et individuelles. La halakha concerne la collectivité. Est-ce que c'est clair? Nous avons un chapitre entier dans la Gemara qui traite de cela, des formules de prière qui sont autorisées si c'est une prière individuelle et interdites si c'est de la prière collective. Au niveau de la prière collective, elles sont hérétiques. Au niveau individuel, malèche, c'est pas grave. C'est de la ferveur subjective. On ne va pas excommunier quelqu'un parce qu'il a une ferveur littéraire pas cachère. C'est sa ferveur littéraire de sa vie intérieure privée. Vous comprenez ce que je veux dire, Ken? Mais s'il érige ça en orthodoxie collective, alors là, c'est sûr qu'on va lui démontrer que c'est une hérésie. Vous avez compris le problème? C'est très important. J'insiste là-dessus. Il n'y a pas de lit pieux juif. Ken? C'est dans ce sens-là. Ça, c'est ce que la mère dit à son fils. C'est ce que le fiancé dit à sa fiancée. C'est ce que et les consignes, les maîtres n'ont pas le droit de parler de piété subjective à leurs élèves. Ça, c'est le père et son fils. Et ça reste subjectif. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il y a un branchement mystique affectif très dangereux qui est très très cultivé dans l'islam, surtout chez les soufis, mais qui est interdit dans le judaïsme. Vous comprenez le problème? Ça, dès que le maître sent que le branchement affectif s'installe, on bloque tout de suite. Ça, c'est va dire ça à ton père. Ça, c'est les affaires de la famille. Vous voyez à peu près le problème.
Au niveau du problème de la définition du juif, comme de la conversion, je crois qu'il y a un petit point de commentaire qui est clair. Bien sûr, Abraham, qui devient le sang du juif, comment Dieu commence à lui dire, Herbe le pauvre, tout le camp, va-t'en pour toi, sors, deviens un étranger par rapport à cette blessée. Or, on oublie que le mot pour définir la conversion, c'est guerre. Guerre, ça veut dire étranger. Donc, c'est un paradoxe apparent. Se convertir à Israël, on traduit devenir étranger. Donc, devenir étranger à l'identité
antérieure
et l'identité, si on comprend Abraham, des arts, c'est-à-dire justement du monde du déterminisme, devenir étranger à ce déterminisme pour entrer dans une nouvelle identité. Et cette expression de guerre qui est gardée, je crois, éclaire la notion. Pour devenir juif, il faut devenir d'abord étranger.
Oui, et c'est une opération au niveau nature de l'homme. C'est une mutation dans la manière d'être homme. Le premier, je dirais hébreu, au lieu de juif, c'est un peu postérieur, c'est Mordechai qui est le premier hébreu. Mordechai lisant. Qu'il y a une équation, guerre égale Israël, parce que premièrement, Israël égale guerre. Et Israël se fait étranger au monde, donc tout candidat à être Israël devient étranger. Et par conséquent, devenir Israël, ça veut dire, en hébreu, l'Itgaïr, devenir étranger. C'est ce qu'Abraham dit lui-même, Ger Vetoshav Anochi, dit de lui-même, Ger Vetoshav Anochi Imachem. Voilà, je crois que là, nous avons quand même, grâce au Rav Mishner, éclairci une catégorie extrêmement importante. Alors, nous commencerons l'étude des Midrashim du Maharal demain avec...